Le journal Jacques Maton DMB.
Bonjour à tous. La une de l'actualité de ce lundi, évasion massive des prisonniers à la prison centrale de Moneditio Kasaï Oriental. Le directeur de la prison parle d'une complicité des agents de l'ordre commis à la garde de ce centre pénitentiaire. Des feux de brousse à la base, d'importants dégâts matériels dans les villages aux alentours de Kananga au Kasaï Occidental. Bilan, plusieurs maisons détruites et aucune perte en vie humaine enregistrée. Et puis au Katanga, plus de 130 tonnes de minerais de la Gécamine saisies dans les entrepôts gérés par des Chinois à Kambove, à 30 km de Likasi. Mesdames et messieurs, bonjour. Commençons avec cette évasion collective à la prison de Moneditio Kasaï Oriental. 81 détenus se sont évadés hier dimanche pendant la journée de la prison centrale de Moneditu. Le directeur de la prison parle d'une complicité des agents de l'ordre commis à la garde de cette prison. La police, quant à elle, procède déjà aux arrestations de quelques évadés. Le point avec Esther Ndalafina.
Selon le directeur de la prison centrale de Moneditu, 81 détenus ont forcé les portes de leur cellule ce dimanche à 13h. Ils ont ensuite quitté l'enceinte pénitentiaire par un trou creusé dans le mur arrière et par les portes principales. Ils se sont glissés dans la population très préoccupée par des célébrations religieuses. Seuls 7 détenus sont restés enfermés dans leur cellule. Parmi les évadés, 30 condamnés, dont 4 militaires poursuivis pour violation des consignes, arrestation arbitraire et dissipation de munitions de guerre. Le directeur déclare également que parmi les évadés, on enregistre certains prévenus poursuivis pour vol à main armée avec violence. Le directeur de prison pointe du doigt les 2 policiers et 2 militaires commis à la garde de ce jour-là. Le commandant de la police nationale de Moneditu abonde dans le même sens. Selon lui, les gardiens ont amené leurs armes et abandonné leur tenue de travail devant la prison. Rappelons que la semaine dernière, la police nationale avait déjà renforcé les patrouilles face au nombre croissant des cas d'insécurité dans la ville. Cette évasion intervient à quelques jours du 30 juin, triste date pour le Kasaï Oriental qui avait déjà vu ses prisons incendiées en 2005. Dernière information, la police annonce la reprise des 3 évadés, dont un commandant de police qui s'est rendu lui-même. Bujimai, Esther Ndalafina, Radio Okapi.
District de l'Ituri, l'opération de démobilisation initiée par la CONADER se poursuit au centre de Yambiaya à Bounia. Depuis son ouverture le 22 juin dernier, le centre de transit a déjà reçu 3 vagues des ex-combattants du mouvement révolutionnaire congolais MRC, un rassemblement des miliciens opérant en Ituri. Le point avec Henri Lobondo-Bokelou.
285 ex-combattants, dont 9 femmes et 2 enfants, ont fait leur entrée dans ce site de transit depuis le 22 juin, date du début de l'opération. À leur arrivée, la CONADER identifie les ex-combattants pour raison de sécurité avant de leur remettre leur kit d'entrée. Ces derniers sont soumis à des séances de sensibilisation pour leur permettre de bien comprendre le programme DDR et faire leur choix entre l'intégration dans la nouvelle armée ou le retour à la vie civile. L'un des démobilisés exprime sa satisfaction à déposer les armes.
Nous sommes très, très contents parce qu'avec les armes, nous n'avons pas de sécurité. Quand les armes sont remises, tout le monde se sent en sécurité. Nous sommes très contents, l'ambiance est vraiment très accueillante ici. Et peut-être cet après-midi, on quitte déjà le site.
À ce jour, la CONADER entend évacuer les premiers éléments déjà démobilisés pour continuer à recevoir d'autres vagues d'ex-miliciens. Ces derniers proviendront des différents points de regroupement retenus pour le désarmement. Selon Stanley Kitunda, gestionnaire du site, ce retard d'évacuation des premiers éléments est lié aux formalités administratives de paiement des filets de sécurité pour ceux qui choisissent la vie civile. Henri Lobondo-Bokelou, Bounia, Radio Okapi.
Pendant ce temps, au Nord Kivu, plusieurs cas d'insécurité ont été enregistrés ce week-end, notamment à Rutshuru et à Goma, des véhicules systématiquement dépouillés de leurs marchandises sur des axes routiers, des maisons pillées et une personne tuée par balle à Goma. La population accuse les hommes en uniforme d'être à la base de cette insécurité. Des explications depuis Goma avec Jules Ngala.
Hier dimanche vers 13h, un véhicule des commerçants en provenance du marché de Kibirizi en territoire de Rutshuru est tombé dans une embuscade d'hommes armés à Kitobogo, juste à l'entrée de la cité de Kiwanja. Les bandits ont emporté plusieurs marchandises sans faire de blessés. Toujours hier dimanche, 2 autres véhicules des commerçants ont été pillés à Katoro, 6 km de la cité de Kiwanja, 75 km au nord de Goma, sur la route de Ishasha, vers 17h. Selon le chef de la cité de Kiwanja, les véhicules pillés revenaient du marché de Kinyandoni. Les bandits étaient en tenue militaire, ajoute cette même source. Dans la nuit de dimanche, dans la nuit de samedi à dimanche, 5 maisons dans le quartier de Bouturande et de la cité de Kiwanja ont été pillées vers 21h par des hommes armés et en tenue militaire toujours. Le chef de la cité qui confirme la nouvelle ne déplore cependant pas de pertes en vies humaines ni de blessés lors du pillage. Par contre, dans la ville de Goma, un revendeur de pain a été tué la même nuit de samedi à dimanche par balle au quartier Imbi vers 20h local. Selon le bourgmestre de la commune de Goma, après avoir tué l'homme, les bandits ont ligoté les membres de sa famille avant d'emporter certains biens de valeur de la maison. Une enquête a commencé, mais elle n'est pas la première du genre. Goma, Jules Ngala, Radio Kapi.
12h06, vous écoutez Radio Kapi au Kasaï occidental. Des dégâts matériels importants enregistrés dans les villages aux alentours de Kananga. Les feux de brousse sont à la base de ces incendies. Plusieurs villages ont ainsi vu des maisons entières s'envoler en fumée à cause de ces feux de brousse initialement allumés pour faciliter la chasse pendant cette saison sèche. Mais jusqu'ici, ces feux n'ont causé aucune perte en vie humaine. Des détails avec André Kambala.
Le dernier incident en date a eu lieu samedi à Tibamboula, une localité de la commune de Nganza dans la ville de Kananga. Dans cette localité, deux cases ont été brûlées. Les territoires de la province ne sont pas en reste. Avant l'incident de la périphérie de Kananga le week-end dernier, environ 30 cases ont brûlé près de la mission catholique de Chikula dans les territoires de Dibaya. Peu avant cela, deux cas ont été signalés dans les territoires de Demba et Kazumba où environ 15 cases ont brûlé dans le secteur de Kafuba et Miao. Jusqu'ici, les statistiques crédibles des cases consumées à travers la province sont difficiles à établir. Mais l'administrateur des territoires par intérim de Kazumba, que Radio Kapi a rencontré, estime qu'après avoir mis du feu à la brousse, la population se désintéresse sur ce qui peut subvenir. Même tableau dans d'autres territoires de la province où les incendies sont dus à la volonté des populations locales d'attraper les rats et ou de fertiliser les sols. Les autorités administratives des différentes localités en appellent à la vigilance des populations. Kananga, André Kambala, Radio Kapi.
À Chikapa, tous les dépôts de carburant doivent être transférés à 6 km du centre-ville. C'est l'une des décisions des autorités de la ville suite à l'incendie qui s'est produit le week-end dernier dans cette ville située à 200 km du chef-lieu de la province du Kasaï occidental. Pour les exportateurs de produits pétroliers, cette décision est difficile d'application car elle n'arrange pas leurs affaires. Des détails avec Marie-Chantal Lumba.
Le maire de la ville, Albert José Mutombo, est parti du constat qu'à Chikapa, au moins une dizaine de dépôts de carburant de moins de 2 km² en plein centre-ville. Pour lui, la prévention reste l'unique manière à lutter contre les incendies. C'est ainsi que le comité de sécurité de la ville a décidé de déguerpir tous les dépôts de carburant des quartiers résidentiels. Albert José Mutombo souligne que ces dépôts n'ont pas les moyens adéquats pour faire face aux incendies et encore que la ville n'a pas les moyens pour l'instant d'installer un service anti-incendie. Les exportateurs reconnaissent la véracité du problème mais demandent du temps pour construire des dépôts sur l'espace attribué ainsi que du temps pour informer leur clientèle. Le conseil de sécurité de la ville de Chikapa estime à plus de 180 000 dollars de pertes en marchandises causées par l'incendie du week-end dernier, ainsi que 2 blessés légers. Une trentaine de personnes au moins ont perdu leurs biens, que ce soit les grossistes tels que le dépôt pharmaceutique de la société Rof Congo qui estime ses biens à plus de 120 000 dollars, ou encore une revendeuse de sucre qui estimait sa marchandise à 20 dollars. Jusqu'à présent, l'utilisation d'un appareil portable de communication reste l'hypothèse à l'origine de cet incident. Les premiers kits de support médical de l'UNICEF pour 15 000 personnes transportées par la MONUC sont arrivés sur place. La MONUC compte aussi organiser une formation de sapeurs-pompiers aux responsables des entrepôts de carburant. De Kananga, Marie-Chantal Lumba, Radio Kapi.
Province du Katanga, plus de 130 tonnes de minerais de la Gécamine saisies dans les entrepôts gérés par des Chinois à Kambove, cité minière située à 30 km de Likasi. Cette saisie a eu lieu au cours d'une opération conjointe menée ce week-end par la garde industrielle de la Gécamine et le parquet de Kipushi. Pour sa part, Luc Ndouboula, citoyen congolais, dit être propriétaire de la matière saisie et dénonce en vice de procédure. Le point avec Donald Chimbouche.
D'après M. Ramazani Moulenda, directeur de siège à la Gécamine Kambove, sa société a entrepris une vaste campagne pour récupérer ses produits volés par les agents Gécamine et vendus au sujet chinois. Grâce au concours du parquet de Kipushi, 8 dépôts ont été perquisitionnés et plus de 130 tonnes de concentrés ont été saisies. La même source affirme que la majorité de ces dépôts appartiennent à des citoyens chinois opérant à Kambove. Pour sa part, M. Monsieur Luc Ndoubula, opérateur minier basé à Kambove, dit être le propriétaire des produits saisis. Il affirme que les Chinois cités ne sont que des gérants. Luc Ndoubula dénonce la procédure et parle même d'une cabale montée contre lui.
Le parquet, on l'a seulement utilisé. C'est un coup monté par les gens de mauvaise foi qui ne veulent pas qu'on puisse se développer à Kambove. On doit aller aussi en justice. La procédure, elle est vraiment mauvaise parce que les produits, même si c'est pour la Chicamine, on devait les confiner à la Chicamine, attendre le verdict du parquet. Les nationaux nous découragent, mais on encourage les expatriés.
Les deux parties promettent d'aller en justice pour rentrer dans leurs droits. Lubumbashi, Donatimbo, Radio Okapi.
Province du Sud Kivu, la société civile d'Uvira vient d'arrêter de nouvelles stratégies pour éviter l'exploitation et l'utilisation des enfants dans les manifestations populaires. C'était à l'occasion d'une évaluation le week-end dernier à la clôture de la semaine en marge de la journée de l'enfant africain organisée à la cathédrale Saint-Paul d'Uvira. Plusieurs défenseurs de droits de l'enfant avaient dénoncé cette pratique. On écoute le président de la société civile d'Uvira, Jean-Ferdinand Bitawa, au micro de Fiston Ngoma.
Il faudrait d'un côté consolider le civil pour parler le même langage. Parce qu'on a compris que la sensibilisation s'est faite, mais c'est comme si derrière ça, il y a des gens qui agissent dans un sens opposé. De deux, nous avons mis comme stratégie, il faudrait faire la prévention à travers les ONG des droits humains, qui s'occupent spécialement des droits des enfants, pour qu'avant la manifestation, qu'on puisse diffuser et même afficher et même utiliser les structures locales pour prévenir les enfants à ne pas se mêler aux manifestants. La dernière, c'est vraiment arriver à mettre en place une dynamique, une et une seule, en territoire d'Ouvira pour pouvoir amener la population vers la même vision.
Toujours dans cette province, sensibilisation électorale, à moins de 5 jours du lancement de la campagne électorale pour les présidentielles et les législatives, une association locale sensibilise les Pygmées à participer massivement aux prochaines élections. L'Union pour l'émancipation des femmes autochtones au Sud Kivu collabore avec la CEI Sud Kivu et va à la rencontre de communautés pygmées des alentours du parc national de Kahuzi-Biega. Écoutons Espérance Moulay, secrétaire exécutif de l'UEFA, qui donne les explications de cette démarche au micro d'Adolphine Ngoy.
Notre formation vient de commencer. Vous serez les enseignantes jusqu'à ce que les gens comprennent quelque chose avant d'aller aux élections, tels que les candidats de son choix. Que chacune de vous puisse bien comprendre le contenu de ce séminaire parce que les enseignements ont été tirés dans un livre qui a été conçu à un très haut niveau. Mais nous sommes obligés de connaître ces contenus. Sinon, on va nous imposer un président inconnu. Apprenons les contenus et informons-en les autres. Car le sort de notre pays repose entre nos mains. Notre pays doit être conduit par un homme de bon cœur.
Ikuna Tabia Muzuri.
À Kisangani, la formation des responsables des services publics de la province orientale s'est achevée hier dimanche. Cette formation a été menée par le ministère de la fonction publique dans le cadre de la vulgarisation du code de bonne conduite. Objectif, permettre à ses agents transmettre à ses agents des notions susceptibles de faire d'eux des fonctionnaires consciencieux, responsables, disciplinés, courtois, motivés et incorruptibles pour un État développé. Cependant, comment lutter contre les maux qui rongent les fonctionnaires de l'État quand on sait que ces derniers sont mal rémunérés? Jean-Pierre Bouédois, chargé de la formation au sein du ministère de la fonction publique, parle de quelques stratégies mises en place par son ministère. Il est au micro d'Anselme Massois.
Que désormais chaque dirigeant et chaque agent de l'État ait à déclarer son patrimoine dès son entrée en fonction, pendant son mandat et après son mandat. Et qu'ainsi, nous ayons à suivre l'évolution de son patrimoine pour que nous sachions qu'il n'est pas dans la corruption. Nous avons aussi une stratégie que nous appelons du calcul de l'indice de perception de la corruption. C'est les reflets de la bourgeoisie, de la richesse, les dépenses qu'on engage. Alors, si vous dépensez plus que vous ne recevez, c'est qu'il y a déjà l'indice de perception de corruption chez vous. Et là, l'on peut diligenter une enquête pour vérifier si réellement, où est-ce que vous tirez le surplus de vos revenus. Et après la campagne, nous faisons signer les actes d'engagement éthique, où chaque agent s'engage vraiment, un, à abandonner les mauvaises pratiques, deux, lui-même à lutter contre la corruption.
Et puis, en page internationale, en Afrique du Sud, une quinzaine des suspects ont été arrêtés et doivent être présentés devant la justice ce mardi après la fusillade entre la police et des voleurs armés qui a fait 12 tués, dont 14 policiers dimanche dans un quartier de Johannesburg. La fusillade a eu lieu lorsqu'une vingtaine d'hommes armés, pourchassés par la police pour un vol, se sont réfugiés dans une maison du quartier de Johannesburg, près du centre de la ville. C'est tout pour ce journal et merci de l'avoir suivi. Okay.